Merci beaucoup. Ça marche, oui, ça marche. Oui, oui, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Merci à toutes ceux et celles qui ont organisé cette soirée à l'accueil du lycée. C'est très sympa d'être ici. Merci. Voilà, et effectivement, je suis avant tout chercheur, donc dans le domaine je me suis intéressé, en fait, j'ai commencé ma thèse il y a 50 ans, donc en 68, sur la formation de la grêle, et depuis je m'intéresse beaucoup à la reconstruction des climats passés à partir des glaces polaires, et je me suis progressivement intéressé à l'évolution future du climat. En fait, il y a un lien très clair entre l'évolution passée de notre climat et ce vers quoi nous allons, parce que les mécanismes sont quand même identiques, et l'intérêt des climats passés, c'est justement de nous apprendre pas mal de choses sur les mécanismes des changements climatiques. Par exemple, j'ai eu la chance de participer à la découverte du lien entre climat et effet de serre dans le passé à travers ce carottage de ces carottes de Vostok en Antarctique. On a aussi mis le doigt sur l'existence de variations rapides du climat. Ils ont vraiment des variations qui surviennent à échéance de quelques décennies, donc à l'échelle d'une vie humaine. Et puis par exemple, eh bien, si on regarde la précédente période chaude, il y a 125 000 ans, il y a 20. Donc nous sommes dans la période qu'on appelle l'Holocène depuis à peu près 12 000 ans. Alors on parle d'une nouvelle ère maintenant, on parle de l'Anthropocène, les 200 dernières années, sur cette période où les activités humaines ont clairement modifié les choses, en particulier la composition de l'atmosphère. Il y a 20 000 ans, c'était le dernier maximum glaciaire. Mais il y a 125 000 ans, par exemple, le climat, précédente période chaude, le climat n'était que de 1 à 2 degrés plus chaud qu'aujourd'hui. Et en fait, le niveau de la mer était au moins 5 mètres plus élevé qu'aujourd'hui. Tout simplement, ça veut dire que dans la durée, les réchauffements relativement modérés, du type de ceux vers lesquels nous allons, à l'échelle millénaire, eh bien, peuvent provoquer des élévations du niveau de la mer très importantes. Voilà, donc un peu, c'est pour vous situer un peu ce que je fais. Je continue pas mal de choses actuellement. Je suis membre du Conseil économique, social et environnemental. Je continue à faire un peu de recherche, un peu moins qu'à main. Donc je me suis aussi beaucoup impliqué dans le groupe intergouvernemental d'évolution du climat sur une vingtaine d'années. Et c'est beaucoup, je le dis parce que c'est beaucoup à partir de ce rapport que je vais essayer de vous répondre aux questions qui sont ici. Alors en gros, quelles sont les causes du réchauffement climatique, comment s'y préparer, que peut-on faire, voilà un petit peu ce que je vais essayer de vous dire. Disons la réalité d'une... Je crois que la première chose, c'est que le réchauffement climatique est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité, vous voyez, dans les quatre dernières années, en fait, ont été les quatre années les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. L'année 2017 est une année chaude, la seconde année la plus chaude avec 2015. Le record est toujours 2016. En fait, 2016 est une année... Où il y a ce phénomène El Niño, c'est-à-dire qu'une partie de l'océan plus pacifique est plus chaude que sa valeur moyenne. Donc, généralement, les années El Niño sont au-dessus de la tendance moyenne. Mais 2017, c'est l'année la plus chaude, disons pour une année, sans phénomène El Niño. Donc, ce réchauffement est bien là et ce n'est pas une surprise. Pourquoi ce n'est pas une surprise? Eh bien, parce que par nos activités, vous voyez, nous modifions la composition de l'atmosphère. Alors, nous modifions la composition de l'atmosphère en... Nous appelons donc des gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gaz à effet de serre? C'est, la propriété, eh bien, le rayonnement solaire par temps clair nous arrive sans trop de problèmes à la surface de la planète. Mais lorsqu'il est réfléchi à cette surface, eh bien, il y a une partie du rayonnement réfléchi qui est absorbée par les gaz à effet de serre. Alors, le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais nous n'agissons pas directement par nos activités sur la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Alors indirectement, puisque nous provoquons un réchauffement qui lui-même est à l'origine d'un réchauffement de la surface de l'océan, une augmentation de l'évaporation, et on observe effectivement qu'il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère qu'il y a une vingtaine d'années, hein, donc de quelques pourcents. C'est ça qu'on s'attend. Mais, disons, quand on parle d'effet de serre lié aux activités humaines, eh bien, les trois principaux, hein, il y en a en fait beaucoup d'autres, hein, beaucoup de, disons, moins importants, les trois principaux, donc ce sont le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, en fait, le méthane et le protoxyde d'azote. Alors, je ne vais pas trop détailler, je pense que vous avez pu lire, donc ce qui est à l'origine de ces émissions est très largement et très bien identifié, aussi bien au niveau des causes, hein, par exemple le rôle important des combustibles fossiles pour le gaz carbonique, le rôle important des pratiques agricoles pour le méthane et le protoxyde d'azote. Donc c'est bien documenté aussi par secteur d'activité, par pays. Hein, donc les émissions des gaz à effet de serre sont extrêmement bien documentées. Et ce qui est bien documenté aussi, c'est... donc là, vous voyez, ce sont les concentrations, hein, ce ne sont pas les émissions. On y reviendra. Donc les concentrations ont augmenté de plus de 40% pour le CO2, plus que doublé pour le méthane, augmenté de 20% pour le protoxyde d'azote. Et nous savons, disons, ce que ça provoque. Ce que ça provoque, eh bien, puisque, disons, piège de l'énergie supplémentaire, eh bien, en fait, on augmente le chauffage, hein, de façon un peu simple. Alors, augmenter le chauffage, en fait, en gros, actuellement, disons, il y a 200 ans, notre planète disposait à peu près de 240 watts par mètre carré, en moyenne annuelle, et, disons, en moyenne. Et, eh bien, l'effet de serre a augmenté cette... énergie disponible de 3 watts par mètre carré. Le chauffage a augmenté d'un peu plus de 1%. En fait, il y a une partie qui est contrecarrée par nos activités, la pollution. La pollution au sens trivial du terme, hein, donc on va parler de pollution automobile, de pollution urbaine, ou de pollution industrielle. Une atmosphère polluée est moins transparente, hein, ça on le voit bien, mais aussi il y a parmi les, disons, ce qu'on émet comme, par ces pollutions, en particulier tous les composés sulfatés, quand ils arrivent dans l'atmosphère, ils se transforment et servent de noyaux de condensation. Et donc, dans une atmosphère polluée, en fait, il y a plus de noyaux de condensation. Donc, pour une même quantité d'eau présente dans un nuage, quand cette vapeur d'eau se condense, en gros, il y a des plus petites gouttelettes. Et ça va jouer sur... les propriétés optiques du nuage, et ça, disons, ça contribue plutôt à un refroidissement. Vous voyez, donc on l'estime à peu près, ce refroidissement lié aux aérosols, à peu près un peu moins d'un watt par mètre carré, à peu près 20%, ça contrecarre à peu près 20% de l'augmentation de l'effet de serre lié aux activités humaines. Donc c'est pas une surprise, et surtout, ce qui est important, c'est que donc, qu'est-ce qu'on fait à part nos activités? On augmente le chauffage. Mais de cette augmentation, de ce chauffage additionnel, de cette augmentation, il n'y a en fait que 1% d'utilisé par l'atmosphère. L'essentiel de l'énergie supplémentaire va dans l'océan. C'est très important. Donc, en fait, 93% de cette chaleur qu'on a ajoutée est dans l'océan. 3% c'est utilisé par les glaces, 3% par la surface continentale. Donc si on veut vraiment regarder, alors c'est important évidemment de regarder ce qui se passe à la surface de la planète, hein. On a vu que le réchauffement était bien là, et parce que c'est quand même là où nous vivons, mais en fait le véritable test du réchauffement, eh bien, il faut aller le voir dans l'océan. Et là le diagnostic est vraiment sans appel. Donc en fait à travers en particulier l'élévation du niveau de la mer. En moyenne, le niveau de la mer s'élève de 3 mm par an, à peu près. Donc, vous voyez, donc, il y a aussi des variations d'une année sur l'autre, mais en moyenne, c'est 3 mm par an. De ces 3 mm, donc un rythme de 30 cm par siècle qui risque fort d'augmenter, qui va augmenter. Et de ces 3 mm, il y a 1 mm qui est lié à la dilatation de l'océan. En fait, l'océan se réchauffe. Il se dilate. Ça contribue à peu près pour un tiers de l'élévation du niveau de la mer. Et puis il y a une bonne moitié qui est liée à la fonte des glaces. Alors la fonte des glaces, disons des glaciers tempérés, hein, bien sûr un peu ceux de nos régions, mais surtout l'Himalaya, les Andes, les glaciers d'Alaska. Et puis depuis une vingtaine d'années, les glaciers, les calottes glaciaires, hein, le Groenland et l'Antarctique de l'Ouest. L'Antarctique de l'Ouest, c'est la partie de l'Antarctique qui est juste dans le prolongement de l'Amérique du Sud. Et là, eh bien, ces calottes glaciaires contribuent de façon très, très nette depuis une vingtaine d'années à l'élévation du niveau de la mer. Elles font, leur volume diminue. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'à travers, à travers l'élévation du niveau de la mer, en fait, c'est la somme, c'est la combinaison de deux composantes qui elles-mêmes sont deux indicateurs du réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Donc, c'est clair que ce réchauffement, disons là, je reprends le terme même du rapport du GIEC, il est sans équivoque pour nous. Mais quand on dit que le réchauffement est sans équivoque, c'est pas simplement dans l'atmosphère. On peut aussi regarder autour de nous. Donc, en fait, la nature se comporte aussi comme on s'y attend en cas de réchauffement climatique. C'est très clair. Et donc, il suffit de regarder les dates des vendanges, peut-être pas à Dreux, mais bon, par exemple, si vous regardez dans les dates, par exemple, de floraison des pommiers ou des poiriers, s'il y a des enregistrements, eh bien, vous verrez qu'elles se sont à peu près avancées de 15 jours à 3 semaines au cours des 50 dernières années, en moyenne là aussi. Donc, ce réchauffement est sans équivoque, il est sans précédent à l'échelle millénaire, c'est-à-dire qu'on a les 30 dernières années sont vraiment les plus chaudes qu'on ait connues depuis au moins un bon millénaire. L'histoire du Groenland vert, de cette idée qu'il y aurait eu dans le passé relativement récent des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui, n'a aucune base réelle dans les données. Bon, c'est bien la période actuelle qui est la plus chaude que nous ayons connue depuis au moins 1000 ans. Bien sûr, il y a eu des périodes plus chaudes dans le lointain passé. Par exemple, j'ai cité celle d'il y a 125 000 ans, mais par exemple, il y a 50 millions d'années, eh bien, notre climat était, enfin, les températures étaient probablement 10 degrés plus chaudes qu'aujourd'hui, de façon tout à fait naturelle. Donc, et en fait aussi parce qu'il y avait l'effet de serre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un réchauffement. Alors, ça veut dire qu'il faut une certaine prudence dans l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est, vous nous dites que, disons, le chauffage augmente, que la température augmente, que le réchauffement est bien réel, mais ce n'est pas suffisant pour établir une relation de cause à effet. C'est tout à fait exact, parce que de façon naturelle, il y a eu des variations, donc il est tout à fait légitime de se poser la question, est-ce que ce que l'on vit depuis, disons, une centaine d'années, est déjà lié aux activités humaines, ou bien est-il d'origine naturelle? En fait, la question aussi est, quelle est la part liée aux activités humaines, quelle est la part d'origine naturelle. Et là, on a été, le dernier rapport du GIEC est très clair. En fait, on montre que l'essentiel du réchauffement, on peut expliquer l'ensemble du réchauffement de la période récente, disons, depuis la Seconde Guerre mondiale, un peu moins de 1 degré à l'échelle planétaire, par l'augmentation de l'effet de serre. Tandis que les causes naturelles du changement climatique, les causes naturelles qu'on peut évoquer à ces échelles de temps, par exemple l'activité solaire, l'activité solaire a des cycles, dont un cycle de 11 ans, mais quand on regarde l'énergie associée à ce cycle de 11 ans, eh bien les variations d'énergie sont de quelques lixièmes de watts par mètre carré. Donc, en fait, c'est 10 à 20 fois plus faible que ce que nous avons ajouté par nos propres activités. Et il y a aussi les éruptions volcaniques. À chaque grande éruption volcanique, il y a une diminution de température de quelques dixièmes de degrés qui vaut sur quelques années, mais globalement, ces causes naturelles ne peuvent pas expliquer plus d'un dixième de degré de variation sur les dernières décennies. Donc c'est clair que nous sommes dans un climat que nous avons modifié par nos activités, en particulier de façon très claire depuis, en particulier depuis les années 50, les années 50 et l'augmentation rapide et importante, les émissions rapides et importantes des gaz à effet de serre dans la deuxième partie du 21e siècle, du 20e siècle, qui se sont poursuivis depuis d'ailleurs. Alors, maintenant, vers quoi allons-nous? Alors, vers quoi allons-nous? Évidemment, c'est... vers quoi allons-nous? Eh bien, c'est... on a un peu ça entre nos mains. Je crois qu'on comprend intuitivement, et c'est confirmé par les modèles climatiques, on comprend intuitivement que plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus on risque d'aller vers des réchauffements importants. Alors ce que je vous montre là, c'est une carte de notre planète à la fin de ce siècle, dans le cas d'un scénario dans lequel on ne ferait pas d'efforts pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors, en gros, on parle d'un scénario émetteur. Donc vous voyez, si on a ce scénario émetteur, en fait, le réchauffement climatique moyen est entre 4 et 5 degrés, avec des endroits, il est plus important sur les continents que sur l'océan. Hein, sur les continents, vous voyez, par exemple, si on regarde l'Europe de l'Ouest, il est de 4, 5, jusqu'à 5 degrés, peut-être un peu plus. Et il est beaucoup plus important dans les régions de l'Arctique, hein, pratiquement deux fois plus important, on atteint des valeurs de 9, voire 10 degrés dans l'Arctique. Et c'est ce qu'on observe déjà. Actuellement, le réchauffement climatique est à peu près deux fois plus rapide dans les régions arctiques, dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord, qu'il ne l'est en moyenne globale. Donc vous voyez, c'est un monde complètement différent de celui d'aujourd'hui. Un peu pour le qualifier, quand on regarde le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans, il était à peu près, 4 à 5 degrés plus froid en moyenne qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a la même différence entre le dernier maximum glaciaire et aujourd'hui, qu'entre aujourd'hui et la fin de ce siècle, dans le cas de ce scénario émetteur. Ce que nous faisons, c'est 50 à 100 fois plus rapide. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, quelles sont les conséquences? Alors les conséquences, on va les regarder à travers. Alors on va d'abord, vous voyez, ce scénario émetteur, donc 4 à 5 degrés plus chaud qu'aujourd'hui à la fin du siècle, un réchauffement qui n'est pas terminé, hein, donc il n'y a pas de stabilisation en fait dans ce scénario, et c'est celui sur lequel on est quand même, nous pourrions aller vers, parce que j'espère qu'on ne suivra pas quand même, nous pourrions aller vers des réchauffements de 6 à 8 degrés à la fin du siècle prochain. Hein, c'est énorme, quand on parle déjà de 4 à 5 degrés, hein, c'est la différence entre la dernière période glaciaire aujourd'hui, hein, on pourra encore aller beaucoup plus loin. Et donc les conséquences, il y a 5 catégories de conséquences. Je vais un peu les décliner assez rapidement. Avec une échelle de risque, depuis indétectable jusqu'à très élevé, rouge, violet, et bien sûr, il n'y a pas de surprise, si vous êtes à vers 4-5 degrés, quelle que soit la catégorie d'impact, de conséquences que vous regardez, que vous examinez, tous les voyants sont au rouge. Hein, c'est très clair, il n'y a pas de surprise. Alors de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de... Alors voilà, j'ai un peu détaillé ces catégories. Hein. C'est, par exemple, dans la première, on va parler surtout de phénomènes assez précis, bien marqués, comme l'acidification de l'océan. Alors, l'océan s'acidifie. Donc, je vais pas vous donner trop de chiffres, mais quand même, chaque année, on émet à peu près 40 milliards de tonnes de gaz carbonique, de CO2. Il y a à peu près chaque année entre un quart et un tiers, les 30% en moyenne, qui vont dans l'océan. Et à peu près un peu moins utilisés par la végétation. Bon, ça dépend des années. Donc en fait, c'est bien pour nous que l'océan absorbe du gaz carbonique chaque année. Ça permet d'avoir une augmentation moins rapide dans l'atmosphère, puisque c'est elle qui est à l'origine du réchauffement climatique, mais c'est aux dépens de l'océan, puisque ce gaz carbonique est un acide faible, et si on regarde par rapport au début du XXe siècle, l'océan est déjà 30% plus acide qu'il ne l'était il y a un peu plus d'une centaine d'années. Alors ça veut dire quoi? C'est pas... Je vais ajouter qu'à la fin de ce siècle, il serait, dans cette hypothèse d'un scénario émetteur, l'acidité serait deux fois plus importante qu'au début du siècle dernier. Alors, ça reste une acidité très faible, on pourra toujours aller se baigner, il n'y a pas de problème, on ne sentira pas pratiquement, mais ceux qui le perçoivent, ce sont tous ceux, les animaux marins, et les corons en font partie de certaine façon, qui sont formés de calcite, de calcaire, puisque cette l'acidification de l'océan rend moins facile la précipitation de CaCO3, de calcite. Donc c'est très important, par exemple, pour les récifs corallaires. On le sent déjà aussi pour certaines coquilles d'animaux dans certaines régions, mais c'est vrai, le véritable problème, ce sont les récifs coralliens, en fait, qui souffrent à la fois du réchauffement. En fait, les récifs coralliens, généralement, se développent sur des zones de température extrêmement étroites, et ils n'aiment pas trop qu'on leur change cette plage de température. Ensuite, l'acidification de l'océan rend plus difficile leur formation. Et puis, il y a aussi, pour les récifs coralliens, c'est souvent le cas, relativement proche des côtes, eh bien, la pollution qui vient du continent ou des îles, eh bien, est aussi un peu, disons, leur rend la vie difficile. Et il y a une quatrième cause qui a été récemment évoquée, par exemple, les déchets plastiques également. Leur rendent aussi la vie difficile. Et vraiment, quand on parle de risque, eh bien, les récifs coralliens sont vraiment un risque, d'autant plus que le réchauffement et l'acidification de l'océan seraient importants. La deuxième catégorie, ce sont les extrêmes climatiques. Alors, je vais en parler un petit peu après, je ne vais pas être trop long, mais vous voyez, c'est pour le moment une énumération. Voilà, sécheresse, inondation, canicule et cyclone. C'est vrai, j'étais en Martinique et en Guadeloupe toute la semaine dernière, j'ai fait toute une série de conférences. Donc ce qui les inquiète, c'est à la fois les cyclones et l'élévation du niveau de la mer. Il y a vraiment un risque pour les cyclones d'avoir des cyclones non pas plus nombreux, mais des cyclones plus intenses, hein, et donc avec des risques qui soient encore plus dévastateurs. Voilà. Donc ensuite, la troisième catégorie, ce qui nous intéresse plus directement, les populations. C'est là où on va évoquer le problème de réfugiés climatiques, puisque disons qu'il y a des régions à cause de sécheresses très marquées, ou bien aussi à cause de l'élévation du niveau de la mer, ou justement de catastrophes climatiques où les gens ne peuvent plus vivre et sont amenés à quitter la région où ils vivent. Pour des problèmes de ressources en eau également, des problèmes de sécurité alimentaire, voilà aussi qui seront vraiment extrêmement marqués dans certaines régions, et aussi des problèmes de sécurité au sens sécuritaire du terme. Le GIEC cite le risque d'aggravation des conflits comme une des conséquences du réchauffement climatique. Et globalement, je crois que la principale conséquence du réchauffement climatique, en termes de population, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Il est clair que le réchauffement climatique, alors quand on ne regarde pas les conséquences une par une, mais leur ensemble, il y a des régions qui sont plus vulnérables que d'autres, ça tout le monde le perçoit, je crois, vis-à-vis du réchauffement climatique, mais même dans des pays développés, eh bien, ce sont les couches les plus pauvres de la population qui ont le plus de mal à faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Si on regarde, par exemple, aussi bien aux États-Unis après Harvey, ou bien même, pareil à Saint-Martin, eh bien, les populations les plus pauvres, généralement, sont en tout cas moins bien prévenues, elles ont beaucoup plus de difficultés à quitter la zone où la catastrophe arrive, c'était le cas de Houston, et puis, après la catastrophe, elles ont généralement plus de mal à s'en remettre. Hein, donc, c'est ce problème d'inégalité est très important, et je peux citer que nous avons, au Conseil économique, social et environnemental, nous avons avec une collègue juriste, Agnès Michelot, présenté un avis justement sur ce problème en France, cette notion de justice climatique, hein, les enjeux, les perspectives pour la France. Cette idée que, il faut prendre des mesures, on ne rêve pas, ce n'est pas un réchauffement. En tout cas, pour que le réchauffement climatique n'accroisse pas les inégalités. C'est très important, c'est ça. Et il y a vraiment des mesures à prendre dans ce sens-là. Alors, la quatrième catégorie, nous sommes tous conscients que le réchauffement climatique est un problème environnemental. Il y en a d'autres. Mais ce qui se passe, eh bien, c'est que ces autres problèmes environnementaux sont très largement exacerbés par un réchauffement climatique important. Donc par exemple, quand on va parler de perte de biodiversité, eh bien, avec un réchauffement climatique important, je suis toujours dans le temps d'hypothèse d'un scénario émetteur, eh bien, la moitié des espèces, faune, flore, à la fin du siècle, auront des vitesses, disons, leur capacité de déplacement est inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc on comprend tout de suite ça accélérera, ça exacerbera la perte de biodiversité. On peut aussi citer les problèmes de pollution, on peut aussi citer les problèmes de santé, je crois que j'y reviendrai après. Je donnerai quelques détails, c'est pour ça, et puis bien sûr les phénomènes irréversibles, l'élévation du niveau de la mer et dégel du permafrost. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples plus, disons, plus précis, plus détaillés, mais pas trop. Donc on va regarder par exemple en France ce qui se passe et en Europe. Donc le réchauffement climatique, vous voyez, dans le même cas, évidemment, on a un réchauffement climatique, on est toujours en scénario émetteur à la fin du siècle qui pourrait être de 4 à 5 degrés. Alors, une des caractéristiques de ce réchauffement climatique, dans un premier temps parler des canicules, des périodes chaudes. Donc, si on prend un réchauffement de 4 à 5 degrés, voilà, donc la courbe rouge, là vous avez en haut les mois d'été. Disons que les mois d'été, avec les données récentes, ça s'arrête à 2005, vous voyez, l'été le plus chaud qu'on a eu jusqu'ici, c'est 2003. 2003 ne nous laisse pas un très bon souvenir. Et en fait, 2003 était 3 degrés plus chaud qu'un été moyen du XXe siècle. On prend l'été moyen du XXe siècle comme référence, vous voyez, 17,5 degrés. 2003, c'était 20,6 degrés. Le précédent été très chaud, c'était 1976. Je pense que beaucoup aussi, c'est très chaud et très sec, surtout aussi. Donc, et puis, eh bien, si vous avez ce scénario émetteur, dans la deuxième partie de ce siècle, eh bien, pratiquement tous les étés à partir de 2060 seront, presque tous les étés seront du type de 2003, et les étés les plus chauds pourraient être 6 à 8 degrés plus chauds qu'un été de référence du XXe siècle. Et vous voyez, on change vraiment d'échelle. Et c'est encore plus marqué, non pas pour, dans ce cas-là, on ne va pas parler simplement des 3 mois d'été, mais là on regarde les températures records. Dans chaque station météo, il y a une température record qui a pu ne se manifester qu'une journée sur les 50 dernières années, l'été. Il y a une température record. Et vous voyez, les températures records en France, à gauche, actuellement, elles sont entre 42 et 43 degrés au bout solide. Donc, en fait, avec un réchauffement, là aussi, vous voyez à droite, à partir dans la deuxième partie de ce siècle, eh bien, les températures records pourrait dépasser 50 degrés sur l'est de la France, et même ici, vous voyez, on n'est pas loin de... Dreux est à la limite, là, entre... Bon, ça a été découpé à 5 zones, un peu arbitrairement, mais vous voyez, ça traduit quoi? Ça traduit que les extrêmes climatiques, eh bien, s'éloignent plus de la valeur moyenne, disons, pour un réchauffement où la valeur moyenne est de 4 à 5 degrés, le réchauffement moyen de 4 à 5 degrés, eh bien, les extrêmes s'éloignent plus de leur base que la valeur moyenne, en gros entre 2 et 3 fois plus. C'est de cette idée d'ailleurs que naît la notion de dérèglement climatique. Il y a un réchauffement climatique sur lequel se superpose un dérèglement. Donc c'est pas, il y a bien un réchauffement climatique, mais il y a aussi cette idée d'extrême plus extrême. Et c'est ça qui peut-être, qui est le, disons, que l'on ressent le plus, de façon le plus claire. Et d'ailleurs aussi, il y a un autre point, c'est que ce sont justement ces extrêmes climatiques qui sont à l'origine des coûts les plus importants, des dégâts les plus importants. On peut parler d'inondations actuellement, de sécheresses, bien sûr de canicules, et puis pour la santé par exemple, c'est beaucoup de problèmes, et puis des cyclones aussi. Alors, bien sûr, quand on parle de réchauffement, il n'y a pas que la température. On voit bien qu'il faut c'est vraiment s'intéresser également aux précipitations. C'est vraiment tout aussi important pour notre vie de tous les jours et pour notre perception du climat. Donc, quand on regarde, là, vous voyez, vous avez, donc, j'espère que vous voyez bien, donc vous avez, c'est une carte de l'Europe, vous voyez, donc, des zones, alors, à gauche, ce sont la moyenne annuelle, L'hiver est au centre et à droite, c'est l'été. Les zones en vert sont des zones où les précipitations augmenteront. Elles peuvent augmenter jusqu'à, vous voyez, 10, 20, 30, 40, 50%. Et puis en marron, ce sont des zones où les précipitations diminueront. Alors le réchauffement climatique, c'est pas très sympa pour les précipitations, puisque les précipitations, et on comprend à peu près pourquoi, disons, quand on regarde la dynamique atmosphérique, les précipitations vont augmenter là où il y en a déjà assez, quelquefois trop, et elles vont diminuer dans les régions qui sont déjà dans un régime de quasi-sécheresse ou de stress-hydrique. Donc, par exemple, tout pourtour méditerranéen. Si on regarde l'hiver, par exemple, eh bien, les précipitations risquent d'augmenter. Et quand on regarde le détail, c'est vrai aussi pour tout ce qui est sur la façade atlantique, hein, risque d'augmenter de façon importante pendant l'hiver dans des régions qui n'en ont pas besoin, avec des risques évidemment d'inondations plus importants. Donc ce qui se passe actuellement, des hivers très doux comme l'hiver qu'on a eu, eh bien, quand on a pendant deux mois comme on a une situation avec des masses d'air qui nous viennent de l'océan Atlantique, on comprend bien que ces masses d'air sont plus riches en vapeur d'eau, puisque c'est ce qui crée des précipitations importantes. Et donc il y a vraiment ce risque dans nos régions, je dirais, en tout cas sur la façade atlantique, à mesure que le réchauffement se met en place, plutôt de précipitations plus importantes l'hiver. C'est l'inverse l'été, quand on regarde, c'est surtout, donc déjà même l'hiver, il y a moins de précipitations a priori sur le pourtour méditerranéen, mais surtout c'est manifeste l'été, moins de précipitations sur le pourtour méditerranéen, avec des conséquences. Alors en été, il y a plus d'évaporation. Donc on voit bien que c'est des risques d'assèchement des sols, des endroits où il n'y a déjà généralement pas trop d'eau, bon, bien sûr des risques avec les ressources en eau, des conséquences sur l'agriculture. Des conséquences sur les réfugiés climatiques, puisque ce sont des régions aussi, disons, tout le nord de l'Afrique sera touché par ces diminutions moins importantes, et donc on voit bien le risque d'afflux de réfugiés climatiques, on imagine assez bien, plutôt vers l'Europe. Et je reviendrai aussi sur les risques d'accroissement des feux de forêt. Donc je l'illustre ici, hein, c'était le dernier point dont j'avais fait la liste. En fait, je vais simplement vous demander quand vous regardez le niveau de risque, le niveau de risque par rapport au feu de forêt, il y a 5 niveaux de risque. Vous voyez, le rouge, c'est le risque très élevé, en fait, et c'est la variation du risque à droite. Et ce qu'on observe, eh bien, par exemple, c'est qu'actuellement, évidemment, ce risque est élevé sur, par exemple, l'Espagne, le Portugal, et le pourtour méditerranéen en général. Mais, par exemple, eh bien, ce risque deviendra élevé, en tout cas très significatif, sur tout l'ouest de la France et le centre de la France, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, vous voyez, ce sont des conséquences qui auront aussi des... ça touche d'autres régions. Le risque restera évidemment très élevé sur le pourtour méditerranéen, mais il s'étend vraiment à des régions qui actuellement ne sont pas du tout l'objet de feux de forêt l'été. Les problèmes de santé, alors, ce sont des vrais problèmes aussi. Si on regarde les problèmes de santé, eh bien, il y a actuellement 5% des Européens, en moyenne, qui chaque année font face à un extrême climatique. Donc, que ce soit une sécheresse liée à l'élévation du niveau de la mer, des inondations, mais en fait, l'essentiel, c'est le problème des canicules. Donc, Donc on a vu par exemple cet été, en début d'été, au mois de juin, c'était exceptionnel. Il y a eu des températures de plus de 40 degrés sur la péninsule ibérique, le sud de la France. C'est assez intéressant de dire que l'été dernier a été plus chaud sur le pourtour méditerranéen que 2003. Ce n'est pas le cas pour le nord, pour nos régions ici, mais sur le pourtour méditerranéen, c'était l'année la plus chaude qu'ils aient connue jusque-là. Enfin, plus chaud que 2003, l'été 2017. Voilà, disons que dans ce cas d'un scénario émetteur, on pourrait avoir 2 Européens sur 3 qui feraient face à ces mêmes événements climatiques. Et que représente cette carte? c'est la multiplication du nombre de décès liés au climat, donc à ces événements extrêmes, à ces, les canicules, vous voyez. Donc il pourra augmenter de 10, 20, enfin il n'y en a pas beaucoup en France actuellement, mais en moyenne, il pourra augmenter, vous voyez, jusqu'à 10, 20, 30, multiplié par 10, 20, 30, c'est un peu le chiffre que vous avez, on passe globalement de 5% à pratiquement 2/3 des Européens qui auront à y faire face. Voilà, donc c'est quand même des choses très importantes. On voit que ce climat serait vraiment très, très difficile à vivre, c'est très clair. L'élévation du niveau de la mer, donc l'élévation du niveau de la mer, elle est inéluctable. Elle est déjà pour 20 cm actuellement, ce que je vous ai montré, mais elle pourrait, dans le cas d'un scénario émetteur, atteindre 1 mètre à la fin du siècle, et certains pensent même que cette valeur est sous-évaluée. Et surtout, ça se poursuivra. Ça se poursuivra inexorablement. Une fois qu'on a mis la chaleur, que la chaleur a pénétré dans l'océan, eh bien ça se poursuit. Et par exemple, si le réchauffement, dans le cas d'un scénario émetteur, c'est clair qu'à échéance non pas de séculaire mais millénaire, le Groenland risque fort de disparaître. Et ça correspond à 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc vous voyez, donc ça c'est un risque. Et même là, je profite, même dans le cas même si on maintient le réchauffement climatique, le scénario sobre, le scénario moins émetteur, en violet, là, eh bien, l'élévation du niveau de la mer sera au minimum de 40 à 50 cm à la fin du siècle, et très probablement jusqu'à 1 mètre à la fin du siècle prochain. Donc, heureux, ça va, mais quand on voit la vallée de la Seine, par exemple, eh bien, ce sont certaines régions de la Normandie, en tout cas, ces régions-là, eh bien, ce sont des conséquences très importantes. Donc, je vais pas aller beaucoup plus loin pour les conséquences, j'aimerais laisser pas mal de temps pour les questions. C'est quoi la conclusion? La conclusion de cela, eh bien, c'est qu'il ne faut pas faire ça. On doit vraiment tout faire pour, maîtriser le changement climatique. Le scénario émetteur, de façon un peu simpliste, c'est celui où on ne fait rien, et ce n'est pas du tout, c'est quoi? Si on fait cela, eh bien, c'est préparer pour les jeunes d'aujourd'hui. Alors, pas beaucoup ici ce soir, mais il y en a quand même quelques-uns, en tout cas préparer pour les jeunes d'aujourd'hui, à part plus des générations futures, un climat auquel ils auront des difficultés à s'adapter lorsqu'ils auront mon âge, soyons clairs. C'est bien ça, et on ne parle pas de générations futures. Donc il faut faire quelque chose, et il y a urgence, c'est bien ça le problème. L'urgence, comment on essaye? Alors, faire quelque chose, alors d'abord, bien sûr, là je vous ai parlé beaucoup du GIEC. Nous, notre rôle, disons, de la communauté scientifique, ce n'est pas de faire des recommandations aux décideurs politiques, mais c'est de leur fournir des éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. C'est un peu notre rôle de scientifique. Alors, où sont prises ces décisions? Donc, le GIEC se met en place en 1988, premier rapport en 90, et... en 1992, au sommet de la Terre de Rio, est signée la Convention climat. Que dit la Convention climat? Elle est de bon sens. Les gens comprennent qu'il faudrait stabiliser l'effet de serre, donc sans spécifier le niveau, de façon à ce que le réchauffement climatique, ne provoque pas des conséquences dangereuses. C'est tout. Mais il n'y avait pas de niveau défini. Donc cette convention climat se réunit chaque année, ce sont ce qu'on appelle les conférences des parties. En fait, la première, alors c'est signé en 92, mais la première se réunit en 95, ça prend un peu de temps, donc après la mise en place. Et depuis, il y a eu trois COP plus importantes que les autres, c'est où il y a eu des accords. Alors, on a espéré avoir des accords. Dans le premier, c'est la COP numéro 3, celle de Kyoto, le protocole de Kyoto, qui engageait les pays développés à diminuer leurs émissions. Donc le protocole est signé en 1997, mais l'arrivée de George Bush en 2000, George Bush décide que les États-Unis ne ratifieront pas le protocole de Kyoto. C'est clair que le protocole de Kyoto, on a vraiment pâti. il n'a pas donné les résultats qu'on espérait. D'ailleurs, les émissions n'ont jamais aussi rapidement augmenté que dans les années 2000. C'est très clair. Donc, la conférence suivante importante, c'est Copenhague en 2009. Mais là, c'est un véritable échec, puisqu'on se rend compte qu'il aurait fallu accélérer, vraiment reprendre de façon très claire des objectifs importants de diminution des gaz à effet de serre. Et en fait, dans le protocole à Copenhague, il n'y a que l'Europe qui est impliquée, quelques autres pays, mais l'Europe, ça représente 10% des émissions. Et, l'Europe s'est engagée à travers, dans son appel de 3x20, qui devrait être respecté en 2020, s'est engagé en 2020 à Copenhague, ils ont diminué ses émissions de gaz à effet de serre de 20%. Donc, et ensuite, l'accord de Paris. Alors, un des intérêts de Copenhague, quand même, c'est que c'est à Copenhague que la Convention climat est passée d'un objectif qualitatif à un objectif chiffré. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à Copenhague, un peu pour se faire pardonner de rien avoir fait, en gros, les décideurs politiques ont accepté que, on ne vise plus à stabiliser simplement les gaz à effet de serre, mais on vise à limiter le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés et à étudier la possibilité d'un réchauffement limité à 1,5 degré. Et ça change complètement. On va essayer de prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, évidemment, c'est quelque chose... c'est quelque chose de très différent, hein, de beaucoup plus exigeant. On va parler. Alors, quelle est l'exigence? Alors, pourquoi on fait ça? Évidemment, l'idée des. Je crois que les politiques ont bien compris, hein, parce que ce type de graphe est bien sûr disponible. L'idée, c'est que si on limite le réchauffement climatique, eh bien, vous voyez, dans les différentes catégories de conséquences, on est généralement soit indétectable, soit moyen, c'est-à-dire que. On a l'idée, pour le moment juste, que si on limite le réchauffement climatique à 2 degrés, par exemple, eh bien, on pourrait s'y adapter, au moins pour l'essentiel. Enfin, je vous ai dit que l'élévation du niveau de la mer se poursuivra, et ça peut être quand même dans certaines régions, même disons, 50 cm supplémentaires, 1 mètre à la fin du siècle prochain, ça peut être aussi une adaptation pas si aisée que ça. Mais globalement, c'est bien l'idée. Enfin, moi, j'y adhère, et comme vous savez, il y a certains pays... qui demande non pas de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Alors, il faut quand même spécifier. 2 degrés, c'est par rapport au pré-industriel, par rapport aux températures récentes, je dirais, par rapport à la moyenne des 4 dernières années, ou par rapport à 2017, en gros. Eh bien, c'est 1 degré supplémentaire. Voilà. Donc, ça serait prendre 1 degré supplémentaire par rapport à un climat comme celui d'aujourd'hui, le très récent. Donc, le problème, c'est que si on veut faire ça, eh bien, il y a vraiment urgence, puisqu'on montre que pour maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés, eh bien, il ne nous reste plus que 800 milliards de tonnes de CO2 à émettre. Donc, on en émet à peu près 40 milliards chaque année actuellement, il ne nous reste plus que 20 ans d'émissions au rythme actuel. Et ceci en supposant que les autres gaz à effet de serre n'augmentent pas, même 10 000. Donc ça veut dire que c'est un mode de, c'est un changement complètement différent. En fait, ça veut dire que, pour montrer que c'est un changement différent, c'est que, on doit laisser l'essentiel des combustibles fossiles facilement accessibles, hein, ce qu'on appelle les réserves. Alors l'essentiel, c'est en tout cas moins de 20% là où elles sont. On ne peut pas continuer à exploiter les combustibles fossiles. Ça veut dire qu'il faut changer de mode. De production d'énergie, on va parler d'efficacité énergétique, on pourra reparler des solutions après. Hein, mais c'est clair. Alors évidemment, l'accord de Paris ne dit pas, on va évidemment pas faire 20 ans au rythme d'aujourd'hui et puis aucune émission après. C'est pas ce qu'on. Alors c'est, ça se traduit d'une autre façon, c'est-à-dire atteindre un pic le plus rapidement possible. Hein, et en fait, ce pic, il devrait être d'émission. Ce pic d'émissions ne devrait pas être atteint en 2020 ou plus tard, diviser les émissions à peu près par 3 entre 2020 et 2050, et atteindre neutralité carbone dans la deuxième partie de ce siècle. Et on parle pratiquement dans tous les scénarios d'émissions négatives, c'est-à-dire qu'il faut trouver des moyens pour enlever du gaz carbonique de l'atmosphère. Donc c'est voilà, mais c'est l'urgence, elle est traduite en particulier par la nécessité d'atteindre un pic d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2 ans. On parlait d'ici 3 ans, mais maintenant on est plutôt d'ici 2020. Et on n'est pas sur cette route, puisque les émissions, par exemple, de gaz carbonique, alors qu'elles s'étaient pratiquement stabilisées entre 2014, 2015, 2016, ont de nouveau augmenté, hein, en particulier à cause des émissions de la Chine. Donc on voit bien cette difficulté, hein, cette difficulté à laquelle on fait face, hein, je pourrais répondre aux questions ensuite sur ces points-là. Et dans ce contexte, évidemment, qu'a fait l'accord de Paris? Alors l'accord de Paris, je vous parlerai de la nécessité, l'accord de Paris, en gros, a fait ce constat, hein, donc bien sûr, l'accord de Paris a endossé, hein, l'objectif de 2 degrés, l'accord de Paris parle même de tout faire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, et cela c'est suite à la demande pressante de certains pays, des petites îles, mais aussi des pays côtiers de l'océan Pacifique et de l'océan Indien, qui en fait, avec de bons arguments, hein, ils ont le problème d'élévation du niveau de la mer pour les petites îles et pour ces régions côtières, il y a aussi le risque d'accroissement de l'intensité du cyclone, et puis eh bien, ces régions vivent quand même largement des ressources océaniques, hein, et donc l'acidification de l'océan est aussi un des problèmes auxquels ils font face. Donc ces pays qui réclame, disons, qui aimerait plutôt un maintien d'un réchauffement climatique limité à 1,5 degré, ont vraiment de bonnes raisons. Mais on est loin du compte. Parce que l'accord de Paris, même si on affiche 2 degrés, 1,5 degré dans l'accord, les engagements des pays, disons, nous mettent plutôt sur des trajectoires à la fin de ce siècle de 3 à 3,5 degrés, hein, entre 3 et 4 degrés. En gros, l'accord de Paris, s'est inscrit dans l'accord de Paris, eh bien, à horizon 2030, même si tous les pays tenaient à leurs engagements, on aura 35 à 40% d'émissions en trop par rapport à des trajectoires qui nous permettraient de rester en deçà de 2 degrés. Donc vous voyez, d'un côté, l'accord de Paris est ambitieux, donc dans son objectif central de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, mais les engagements des pays ne sont pas du tout à la hauteur de cette ambition. Alors ça, l'accord de Paris le constate et en conclut qu'il faut relever l'ambition, qu'il faut augmenter l'ambition des pays. Et c'est là qu'on voit le véritable risque posé par le retrait des États-Unis. Bien sûr, ça va jouer peut-être à la marge d'ailleurs sur les émissions des États-Unis elles-mêmes, hein, bien sûr, de leur pays. Mais c'est surtout le fait que le succès de l'accord de Paris, c'était le fait que cet accord est universel, hein, tous les pays l'ont signé. Et donc évidemment, en rayant en sortant de l'accord de Paris, Donald Trump met ce succès de l'accord de Paris, son universalité, est vraiment mise à mal par le retrait des États-Unis. Et surtout, on comprend bien que, vouloir rediscuter de l'ambition de l'accord de Paris. L'idée, c'était de le faire à partir de 2019-2020, demander aux pays de faire mieux que ce qu'ils avaient promis. Si les États-Unis ne sont plus dans la barque, eh bien, ça sera extrêmement difficile. Hein, donc, c'est ça, je crois que malheureusement, les conséquences du retrait des États-Unis seront beaucoup plus visibles encore dans 2 ou 3 ans qu'elles ne le sont maintenant. Alors, dernier point. On pourra répondre aux questions, c'est que, bon, évidemment, c'était un peu dans le titre, comment on fait? Eh bien, il faut à la fois lutter contre le réchauffement climatique, mais celui-ci étant inéluctable, il faut aussi s'y adapter. Hein, il faut anticiper ce réchauffement, et c'est l'objectif, par exemple, en France, il y a eu un premier plan d'adaptation qui a été mis en place. Le premier a été lancé par Nathalie Kosciusko-Morizet, je crois que c'est en 2012, donc c'était des plans de 5 ans. Et le second, voilà, est pratiquement finalisé, mais il va devoir être. Bon, le document existe, vous voyez, il a été publié avant-hier, plus un peu mis de la page de garde. Et donc ce deuxième plan, donc il y a des mesures dans différents domaines. Ce que je peux dire, c'est que. J'ai beaucoup participé au premier plan, moins au second, mais. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a aucun secteur d'activité qui peut se dire que le réchauffement climatique, ça ne me concerne pas. Il n'y a aucun secteur d'activité qui peut s'affranchir de ça. Donc dans tous les secteurs d'activité, qu'on soit, bien sûr, qu'on parle d'énergie, qu'on parle de tourisme, qu'on parle d'agriculture, eh bien le réchauffement climatique est bien là. Il y a aussi, bien sûr, ce n'est pas forcément négatif, il y a aussi des opportunités. Je parle très souvent dans le monde agricole, il y a aussi des opportunités, mais il faut effectivement prendre à la fois la lutte contre le réchauffement climatique, la diminution des émissions, mais aussi, disons, cette anticipation, cette adaptation, et bien prendre cela à bras le corps. C'est un peu la conclusion de mon exposé, maintenant je vais essayer de répondre à votre question. C'est vraiment quelque chose d'important, et voilà, donc qui je crois va forcément irriguer le développement de nos civilisations au cours des prochaines décennies. Si on n'arrive pas à lutter contre le réchauffement climatique, je crains que, disons, que ça soit difficile d'espérer un développement harmonieux de nos civilisations. C'est très clair, le message est bien là. Et donc, nous avons tous intérêt collectivement à nous y préparer et bien sûr à contribuer, je crois, à la lutte contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup. Merci.